We are grateful. Oh Lord Jesus. We are grateful. Oh Lord. For what you have done for us. Oh Lord.
Hallelujah.
We
Amis de Radio Silence, bonjour. Il y a une bonne nouvelle que j'apprends tardivement aujourd'hui et qui a eu lieu le 27 février en Afrique du Sud, au sein du Parlement sud-africain qui a voté le processus de nationalisation, expropriation sans compensation des 35 000 fermiers blancs du pays. Bien, la nouvelle vient de l'Afrique, la source. C'est l'Afrique réelle qui fait état de l'information et qui déplore que pour des raisons économiques, les fermiers soient ainsi spoliés et que pour lui, enfin pour le commentateur de l'article, ce serait un peu comme un désastre, hein, un désastre, ou plutôt l'annonce d'un autre désastre, à l'instar de l'Angola, de la Namibie, de la Zambie, du Mozambique, du Botswana, du Zimbabwe, bref, toute cette corne-là risque d'être frappée par la disette et la famine. Mais alors, qu'importe, ce qui compte, c'est la revanche raciale pour lui qui semble être plus forte ici. Et que c'était un mythe, hein, n'est-ce pas? L'Europe avait vibré sous le mythe là de la nation arc-en-ciel qui serait ainsi réconciliée. Et puis, ben voilà, les Européens sont cocus. Tant pis pour eux s'ils n'en tirent pas les leçons. Bon, on verra bien lesquelles. Sanctions peut-être, on ne sait pas. Mais ça a déjà été fait. C'est une réaction forcément. On est libre de nos réactions, nous sommes dans un pays des droits de l'homme, la liberté d'expression notamment. Mais moi, je suis très contente de cette initiative parce qu'il n'était que temps. L'Afrique du Sud, avec son indépendance, enfin son indépendance, avec son premier président noir à la Nelson Mandela, là, ça n'a pas donné les effets escomptés parce que il ne faut pas seulement nommer un président, il faut que le président symbolise comme ça l'arrivée d'une nouvelle ère, surtout en Afrique du Sud où il y a l'apartheid. On ne peut pas cautionner le fait que des terres capturées pendant la colonisation, et quelle colonisation, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, restent confisquées comme cela et sans que personne ne dise rien, ce n'est pas possible. Il faut restituer les terres aux propriétaires et si les propriétaires ne sont plus vivants, alors l'État récupère les terres. Ça, c'est élémentaire. J'en profite là pour revenir sur ce que je disais, enfin pour prolonger ce que je disais la dernière fois concernant l'histoire de l'immigration. c'est qu'on dissocie beaucoup l'immigration de l'histoire et comme on dissocie aussi beaucoup la gouvernance de l'histoire et la politique de l'histoire. Et c'est une amputation qui crée donc ces politiques hors sol, déconnectées de la réalité et de la mémoire des individus. Il ne faut pas croire les êtres humains. On a beau essayer de les de leur lessiver le cerveau comme ça, la tête, avec ces émissions de la télé, des fake news. Mais ça ne marche pas comme cela. Il y a toujours un impensé ou plutôt un inconscient dans la mémoire des gens qui est presque inscrit dans leur ADN. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est ainsi. Alors, on peut toujours... Voilà, j'aime bien ces discours-là, nation arc-en-ciel. Ça voulait dire quoi, nation arc-en-ciel? Ça n'existe pas, ces choses de nation arc-en-ciel. Il y a l'intégration, il y a même ceux qui vont peut-être parler d'assimilation, comme le Front National voulait le revendiquer. Nous devons revenir au fondement identitaire, au fondement de la terre, savoir à qui appartient la nation. Et après, c'est vrai, nous avons toute une politique d'intégration, il y a toute une évolution qui se fait, mais on ne peut pas nier ou effacer l'origine des choses au profit d'une évolution comme ça, bâtarde, excusez-moi, dont on voit très bien aujourd'hui les conséquences. Moi, je crois qu'il faut quand même rappeler que l'Afrique du Sud, c'est en Afrique. C'est une terre des Noirs. Et que, bien sûr, les Blancs sont arrivés, ils ont colonisé, ils ont développé, ils ont fait ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Vous allez chez quelqu'un, vous développez, ça ne veut pas dire que vous allez le chasser ou que vous allez le commander. Mais non. Je veux dire, l'immigration, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces malentendus comme ça, ou plutôt, c'est pas des malentendus, c'est une récupération du discours qui est complètement lamentable parce que ça va dans le sens de la propagande. Nation arc-en-ciel, bah, ça c'était justement pour empêcher que la justice passe, c'est-à-dire qu'on récupère les terres et qu'on aille plus loin, qu'on nationalise toutes les mines de diamants parce que cet argent-là, c'est l'argent des Africains du Sud. Et je suis ulcéré qu'on continue à laisser la richesse de l'Afrique entre les mains, je sais même pas de qui là, et des colons, c'est ça, des descendants des colons, alors que les gens, même les propriétaires de la terre et de ces mines, sont déshérités au profit des discours comme la nation arc-en-ciel. Ça voulait dire quoi? Ça voulait rien dire du tout. Je vais pas commenter plus que ça sur l'Afrique du Sud. Disons que franchement, ils sont sur la bonne voie. On dira l'exemple de Mugabe, ça n'a pas marché. Oui, mais ça, on verra. On a très bien vu que les Zimbabwéens, après avoir été manipulés comme les Congolais risquent de l'être en ce moment, parce qu'on se trompe d'ennemis en Afrique, les Africains, ils se trompent d'ennemis. On voit bien que les Zimbabwéens ont fini par comprendre que ce père de la nation méritait quand même qu'on le traite avec certains égards, contrairement à la furie que l'Occident appelait, qui devait s'exercer sur Mugabe. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur Mugabe? Parlons-en. Mugabe, lorsqu'il a nationalisé les terres, il n'a pas été trahi par les fermiers qui ont été incapables, ou les fermiers noirs, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Quand on dit non, on ne va pas les nationaliser, parce que c'est le présupposé, c'est que les noirs, non seulement ils ne sont pas prêts pour la démocratie, bon, alors on ne va même pas parler de l'ethno-mathématique qui fait qu'ils ne sont même pas prêts pour les élections. En plus, on va dire qu'ils sont des incapables en matière de gouvernance, donc si on leur donne la terre comme ça, ils ne peuvent pas l'exploiter. Mais c'est faux. Mugabe avait été trahi parce que Londres avait promis de l'argent, et pas seulement Londres, mais aussi les institutions internationales. Et une fois, pas l'argent pour compenser cela, mais un argent pour le Zimbabwe. En gros, je vais dire, le Zimbabwe a probablement sollicité des prêts, mais parce qu'il a exproprié des gens qui ont quand même bénéficié pendant 300 ans, voire 400 ans de la terre et de tous les revenus, sans les partager, parce qu'il a fait cela, on a coupé les crédits. Alors, si on coupe les crédits, vous êtes dans la merde. Et au lieu de dire cela, on se met à dire que, oui, ben voilà, il a bien mérité, c'est bien fait pour lui, voilà, les Africains n'arrivent plus à gérer. Non, c'est que tout simplement, il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent et il fallait faire avec ce qu'il y avait. Et c'était compliqué et personne n'a jamais dit ce qui s'est passé réellement. En Afrique du Sud, aujourd'hui, je crois qu'ils ont dû prendre la mesure du problème et prévoir les sanctions extérieures. Parce que c'est facile d'étrangler quelqu'un d'un côté, je veux dire dans le noir, et puis d'arriver comme ça publiquement et de dire oui, mais voyez, il n'y arrive pas. Sur ce, on va enchaîner avec donc l'autre partie du problème qui concerne aussi l'Afrique du Sud, c'était l'immigration. L'immigration, je me suis arrêté la dernière fois aux années 80, c'est-à-dire à ma génération. Mais il faut, enfin, années 80, je suis arrivé ici précisément en 1985, septembre. C'était la rentrée 85-86 universitaire. L'immigration, lorsque moi j'arrive ici, les plans d'ajustement structurel ont commencé à frapper l'Afrique. C'était les années 1985, 1984 par là, ça commençait. Je précise que la génération comme la mienne, on est venu ici, on a laissé un travail, un emploi. J'étais secrétaire de direction aux brasseries du Cameroun, plus précisément à Yaoundé, où je travaillais avec le directeur. Et je gagnais très très bien ma vie. Je gagnais combien là? 300 000 francs CFA déjà à l'époque, plus les avantages, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'était les années 85, 83-85. J'ai travaillé aux brasseries de 81 à 1985, 4 ans. Donc, nous avons laissé des situations honorables, confortables, parce que nous sommes venus ici. On avait, comme Martin Luther King disait, I have a dream. On nous a vendu l'Occident comme étant, oh là là, le lieu où il fallait absolument être. Alors on a tout laissé. Bon, moi en particulier, j'ai vraiment eu aucun regret à laisser parce que j'avais comme ça une curiosité intellectuelle qui me poussait à venir ici, à dire je vais comprendre le monde, je vais comprendre le monde et je dois dire, permettez-moi quand même de le dire, que je suis comblé au-delà de tout ce que j'avais espéré et que je souhaitais. Mais c'est une histoire, ma vie, c'est un témoignage. Parce que franchement, depuis 10 ans après mon inscription à la fac, où j'ai obtenu ce doctorat-là en sciences de l'information et de la communication, ça c'est pour que vous me connaissiez un peu mieux. L'information et la communication à l'époque, c'est pas ce qu'il y a maintenant. C'était une civilisation et le cursus, c'était terrible. Donc, c'était terrible, mais aujourd'hui, je suis contente. À l'époque, on s'arrachait les cheveux en se disant, on va jamais y arriver, parce que c'était vraiment, il y avait de tout. Vous voyez, vous vous rendez compte, si vous voulez étudier une civilisation, c'est énorme. Donc, on n'étudie pas vraiment tout, 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 mais on fait l'essentiel, on fait l'essentiel. Et on insiste beaucoup sur tout ce qui est rapport entre l'art et la philosophie, ça j'ai beaucoup aimé. Et l'art et l'urbanisme, bien sûr. Et la philosophie et l'urbanisation aussi, et l'architecture, toutes ces choses-là, on les met pas toujours en parallèle, bien sûr, avec la religion, toujours. Aujourd'hui, quand je fais des chansons religieuses, c'est pas parce que je suis prise tout d'un coup par un prosélytisme tardif, non. J'ai toujours baigné là-dedans. Mon père était chargé des cultes lorsqu'il était pas au gouvernement, mais on va dire gouvernement local. Mon père, en cette qualité-là, on allait au culte hein, tous les dimanches. Mon père, c'est quelqu'un qui était sous-préfet, donc qui a été. Mais oh, en Afrique, les sous-préfets, c'est un peu comme des gouverneurs, hein, parce qu'on vous confie tout un territoire, à l'époque, pas aujourd'hui. Et c'était plus que sous-préfet. Et le sous-préfet, c'était la loi, voilà, dans certains territoires, carrément. Et j'ai vu comme ça la politique se faire pratiquement tous les matins dans notre, je veux dire, au petit déjeuner. Donc ces choses-là, je les connais sans les connaître, je les ai bues sans les boire. C'est de l'inconscient qui travaille et qui, à un moment donné, se révèle. Et peut-être que c'est cela qui est à la base de ma curiosité, je ne sais pas. Mais toujours est-il dit que lorsque j'étais aux Brasseries du Cameroun comme secrétaire de direction, j'avais l'impression de pas être allé au bout de ce que je valais, entre guillemets, ou de ce que je voulais, ou de ce dont je rêvais, ou bon voilà, j'étais un peu insatisfaite de cela. Il y avait un fond d'insatisfaction intellectuelle qui faisait que j'allais pas rester de toute façon. Alors, je suis pas restée. Je suis venue. Alors, le rapport entre cela et l'immigration, c'est quoi déjà? C'est que quand moi j'arrive en 85, Mitran vient d'être élu. Il vient de régulariser toute une vague de gens, bien sûr, ça c'est... Vous vous référez à l'ancienne émission? Ce sont ceux qui sont venus dans les années 70 en rêveur aussi, et qui étaient là en végétation, et il fallait bien les régulariser, parce que Mitran savait, plus que quiconque, ce qui se passait dans la politique franco-africaine. Il savait bien que ces gens-là, on les avait dupés avec des rêves impossibles, et improbable. Bon, nous, on arrive là, on n'est pas vraiment des révolutionnaires, on est plus des gens en recherche du savoir et de la connaissance, donc on est vraiment plutôt des pacifiques. On arrive, on est tranquille. Et on fait ces études-là, on finit, et quand je disais que j'étais plus que sans papier, après, il n'y a pas de boulot. Discrimination, comment on appelle ça, le plafond de verre, racisme, tout ce que vous faites, ça ampute, vous commencez une action, ça marche, on coupe les subventions, mais en attendant, on les donne aux journalistes pour faire la prostitution publique. Bon, je vais dire, c'est encore une déception. Alors, quand on vous parle d'immigration, il faut déjà qu'on revienne à ce qui se passe en Afrique du Sud, à la justice historique. Il faut déjà rappeler que pour que les Noirs soient ici, il a fallu qu'il y ait 400 ans d'esclavage. Et que pendant ces 400 ans d'esclavage, les Noirs construisaient l'Europe, l'Occident et un peu partout. Pour que les Noirs et les Africains soient ici, les Arabes, je n'en parlerai pas parce que ça, c'est leur histoire, il a fallu qu'il y ait cette spoliation du néocolonialisme qui succède aux indépendances et qui fait que les Africains n'ont jamais été vraiment indépendants. Pour que les Africains soient ici, c'est qu'entre-temps, il y a eu la dévaluation du CFA qui est intervenue de manière brutale avec le gouvernement Édouard Balladur, Monsieur Sarkozy, qui ont divisé le franc CFA en deux, lui faisant perdre de toute sa valeur. Donc, du jour au lendemain, beaucoup d'hommes d'affaires en Afrique se sont retrouvés appauvris. Pour que les Noirs soient ici, il faut savoir qu'il y a eu pendant longtemps des politiques de la dette au niveau international et des politiques de l'aide publique. Alors, la France, par exemple, va dire qu'elle aide, mais c'est une aide liée. Quand elle vous donne de l'argent, c'est peut-être... En fait, c'est juste une écriture. Hein. Je vous ai donné tant... j'ai aidé l'Afrique de tant de millions, mais parfois ces millions-là, c'est la correspondance en termes budgétaires va être des armes qui vont être livrées au pouvoir. Je vous ai donné tant d'argent, c'est que pour construire des routes, la condition, c'est que c'est une entreprise française qui construira ces routes-là, etc., etc., dont l'aide a toujours été liée. Et à côté de cette aide liée, vous avez eu ce qu'on appelait les éléphants blancs, ces grands trucs, grands projets qu'on mettait en place, qui en fait étaient juste une forme de blanchiment d'argent, des projets évidemment qui n'allaient pas jusqu'au bout, qui finissaient comme ils finissaient, la ruine parfois. Vous avez ces financements des campagnes électorales françaises, et on nous dit d'ailleurs que notre président actuel a fait une tournée en Afrique avant les élections. Ça veut dire ce que ça veut dire, je ne sais pas qui va enquêter là-dessus, mais laissons cela de côté. Puis on a eu donc les politiques... Donc, de ce dont j'ai parlé, du FMI. Le FMI, qui arrive en 85, parce qu'après ce siphonnage systématique de l'Afrique, je vais même pas parler de l'échange inégal, des termes de l'échange, au niveau de l'OMC, où ce sont, non seulement ce sont eux qui extraient les matières premières, mais ce sont eux aussi qui fixent les prix à l'international. Donc, vous regardez cela et vous dites, bah, tant pis. Donc, le FMI arrive en 1984 avec ses plans d'ajustement structurel. Les plans d'ajustement structurel, c'était quoi exactement? Les plans d'ajustement structurel, c'est ces plans-là qui partent de l'idée que l'Occident est très très fort en matière de gouvernance et qui va nous apporter des leçons aux Africains, un peu comme ça s'est passé pour, vous savez, la mission civilisatrice. On nous a apporté la civilisation et le vêtement. Oui, nous marchions nus, n'est-ce pas, nous tous, comme ceux de la préhistoire ici, en Occident. Donc, le FMI nous dit. Ah, j'ai failli dire le Front National, c'est pour le Rassemblement National qui se dispute en ce moment. Le FMI dit, oh, on va vous apprendre la gestion. La gestion, c'est quoi? Vous gérez très mal vos fonds publics, là. On va tout privatiser. Et puis, non, pas d'abord. On va peut-être laisser les administrations, mais alors là, il faut passer par des coupes franches d'effectifs. On va. Et pour le reste, on va privatiser parce que vraiment, vous n'y arrivez pas. On va privatiser l'eau, on va privatiser l'EDF, enfin, l'EDF, l'énergie, on va privatiser bon, la téléphonie. On va, je veux dire, tout cela pour vous dire que c'était une reprise en main de la colonisation à une autre version. On en termine donc avec le FMI. Le FMI qui a tout reprivatisé, qui a créé un chômage massif. Ça, tout le monde est d'accord sur le bilan catastrophique. Et en voulant reprendre la main, ils ont refait des plans sociaux permettant d'ajuster l'ajustement structurel. C'est que dans le diagnostic, on n'avait tout simplement pas vu que l'Afrique n'avait pas de sécurité sociale, n'avait pas de protection sociale, n'avait pas des allocations familiales, n'avait pas de politique sociale. Et donc tous ces gens qu'on a comme ça expédiés à la rue, ça donne quoi? Qu'on a licencié brutalement, mais ça donne que non seulement le service public a été totalement déstructuré et déphasé à un moment donné, mais en plus, chômage massif. Qu'est-ce qu'on fait? Tout cela vient alimenter encore l'immigration, parce que ces territoires sont devenus des territoires sans avenir. C'était peut-être prévu, c'était pas prévu, mais ça c'est comme les réfugiés syriens où on va peut-être dire que ce sont des dommages collatéraux. Mais alors il faut pas se plaindre après de la présence des immigrés ici ou dire qu'on est envahi. On n'est d'ailleurs pas envahi parce que si on fait un ratio entre le nombre d'Occidentaux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire en Afrique et dans d'autres pays, je suis pas sûr qu'on soit que la France ou l'Europe soient envahies, d'autant qu'à l'extérieur, eux, ils sont riches et ici, bah, c'est des pauvres, hein, c'est clair. Bon, voilà. Quand on dit ces choses-là, vous voyez, quand vous rappelez que oui, c'est vrai, les gouvernements locaux, les chefs d'État, ils ont leur part de responsabilité, c'est clair. Mais on ne sait toujours pas, au vu de tout, comment je vais dire ça? De la configuration, je ne sais pas comment dire ça, de tout ce qui s'est passé là, de l'histoire, disons l'histoire pour être simple, on ne sait pas quelle est la marge de manœuvre réelle que ces chefs d'État ont. Ils disposent, est-ce qu'ils ont les mains libres, vraiment, on ne sait plus. Dans quelle mesure ils sont pas eux-mêmes les marionnettes, et puis dans quelle mesure aussi eux-mêmes ne sont pas esclaves. De certaines choses, je veux dire, c'est compliqué de juger un chef d'État africain aujourd'hui, lorsqu'on sait tout ce qui s'est passé à l'international, lorsqu'on sait tout ce qui se passe toujours dans l'ombre, parce que là, la présence française en Afrique, on ne sait toujours pas aussi exactement c'est quoi, parce qu'on ne le saura jamais, c'est des secrets d'État aussi. Du coup, moi, je suis toujours ulcéré quand je vois que malgré cela, vous avez tout ce bataillon qui est derrière moi pour me pénaliser, pour me faire du mal, et que quand je crie au secours, il n'y a personne qui vraiment va répondre sans trembler. Moi, vous voyez, lorsque ces gens-là, les ayants droit à la violence, vous font du mal, Tout le monde regarde et dit oui, en même temps, tu sais, il faut que tu te couches. Hein. Oui, c'est comme ça. Sinon, on te dit triche aussi, vole aussi, va signer le pacte. Sinon, après, vous avez l'autre variante. Moi, à l'église hier, le pasteur, il disait oui, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que quand vous dites des choses, vous pouvez blesser des gens. Mais blesser qui? On blesse qui? On blesse quelqu'un qui vous a déjà détruit? Il y a une façon religieuse de concevoir des choses. Je suis d'accord, il faut être tranquille. Chacun va dire, elle se venge. Moi, j'ai aucune. Alors là, j'ai vu le mot revanche, là, qu'on prenait sur les blancs à l'étranger. Je ne crois pas. Moi, je suis noire. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Et je ne cache pas. Je ne crois pas que le noir soit habité par un esprit de revanche. Ça, c'est pas du tout le truc des noirs, ça. Le noir, c'est quelqu'un de très simple, finalement. Et je suis sûr que Jésus était noir. Ça, sûr. Le noir, c'est pas quelqu'un qui est avide d'un pouvoir excessif. Non. Le noir, c'est pas quelqu'un qui va écraser les gens. Je sais. Le noir, c'est quelqu'un qui a un côté, on peut le manipuler facilement, va dire ça va faire du mal à ton frère ou à ta sœur, va l'empoisonner, va. Ça, c'est facile pour le noir. Mais le noir, c'est pas quelqu'un qui prend une revanche sur qui que ce soit. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et qui sait que quoi qu'il fasse, et c'est pour ça, j'applaudis les députés de l'Afrique du Sud, quoi qu'il fasse, il sera critiqué de l'autre côté par ces gens-là qui, eux, n'ont pas de revanche à prendre, c'est sûr, et d'autant plus que ce sont eux qui écrasent les autres de façon violente, et puis ils ont le culot de venir comme ça pleurer, oui, faut pas se venger et tout. Non, on répond pas à la violence, pas à la violence, ça c'est pas mon problème. Moi, je suis pas ici pour être violente, je suis ici pour vous dire la vérité historique, et je suis ici pour vous dire qu'il faut respecter les gens. Voilà. Moi, à part ça, j'ai rien d'autre, j'ai rien d'autre. Quel que soit ce qu'on m'a fait ici en France, je m'en fous. Mais je sais une chose. Je suis toujours justifié. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils m'ont bloqué l'accès à l'avion. Et ben paf. Je veux dire, c'est Dieu qui fait ces choses-là, c'est pas moi. Quand vous êtes méchant, vous êtes mauvais, il n'y a personne pour vous reprendre. Après, quand on vous reprend, vous venez vous pleurer. Oui, mais moi, je me venge, je suis personne. J'ai la haine pour personne à l'église là-bas. Il y a un frère qui a prêché, qui dit, les gens ont des blessures intérieures. Blessures intérieures? Contre qui? J'ai pas de haine, moi. J'ai pas de blessures intérieures. Si j'ai un regret, je pense à mon père, je pense à ma mère. C'est tout. Le reste, à mes sœurs qui sont parties. Et tout ça, si je regarde au fond, ça sera toujours la faute de ces occupants et de ces blancs qui sont venus nous raconter des conneries en Afrique. Regardez l'hôpital. L'hôpital n'avance jamais en Afrique. Vous pouvez comprendre ça? Qui peut comprendre que les politiques de santé n'avancent jamais en Afrique alors qu'il y a de l'aide, qu'il y a du développement, qu'il y a de la coopération? Il y a tout sur place, il y a des énergies, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va courir aller dire aux députés de l'Assemblée nationale camerounaise, oh là là, faites vite interdiction de double nationalité, comme ça tous ceux qui sont les Camerounais formés qui peuvent venir faire ces choses ici au Cameroun ne le feront pas. Est-ce qu'ils vous disent ça, ces gens-là? Est-ce que vous avez entendu au niveau de l'Union européenne un chef d'État se lever et dire non? Le pays qui fait ça, parce que ça, ce sont des blocages au retour. Qui vous le dit, ça? Qui prend cette responsabilité? Non, personne. Au contraire, on arrive, on vous vend l'immigration, mais il y a beaucoup d'immigrés qui veulent rentrer. Vous le saviez, ça? Non. Mais pas rentrer dans le cadre je vais dire, de la pitié, là, avec leurs 2000 euros, 6000 euros qui donnent aux gens, ils peuvent se le garder. On va rentrer chez nous. Alors qu'on cesse d'encourager les négriers. Et puis après, on viendra nous parler de violence, qui veut pas violence et toutes ces choses-là. Je veux pas dire les blancs, mais l'Occident est très fort pour faire du mal et en même temps pour pleurer. Non, il faut que ça s'arrête. Ça, c'est tout ce que moi je demande ici. Moi, mon sacrifice, je le consens jusqu'au bout parce que je vois qu'il paye. Je vois qu'il paye. C'est pas moi qui paye à ma place, mais c'est pas. Je veux dire, c'est pas moi. Qui agit, qui veut poignarder qui que ce soit, qui veut harceler parce qu'ici alors, ils passent leur vie, ils envoient tout pour harceler, ils sont bien planqués, ils disent non, je fais rien, je fais rien. Mais l'hypocrisie, les hypocrites, ils peuvent pas vous dire qui ils sont, ils peuvent pas. Mais si moi je réagis, ah, mais vous avez vu, elle est furieuse et tout, mais moi on me la fait pas. Voilà, qu'on a l'affaire au pasteur, au prêtre, à l'église qui joue à ce jeu-là, double jeu. Moi je joue pas ici. Ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un. Que... Je suis quelqu'un de très simple. Hein. Moi je rigole beaucoup. Bien. Et c'est peut-être mon défaut d'être ouverte comme ça, d'avoir permis comme ça. Être ouverte facilement, être gentille facilement, être aimante facilement, oui, avenante, tendre, prête à me sacrifier pour aider les autres, mais les autres ne le feront jamais pour vous. Alors, il est temps d'ouvrir les yeux, sans perdre de vue qu'on peut être généreux, sans perdre de vue qu'on peut s'amuser, mais il faut avoir les yeux bien ouverts. Et surtout, moi, j'ai dit à l'Afrique... aux négriers africains, vous perdez votre temps est déjà consommé. Par exemple, le Cameroun, finissons quand même là-dessus. Le Cameroun a un Sénat, il ne sert à rien. Ici, déjà, on discute voilà, de la nécessité de ces Sénats. Le Cameroun vient de mettre en place un conseil constitutionnel qui est une sinécure pour les anciens politiques. Alors, ça ne sert à rien. Le pays n'a pas d'argent. Il peut se passer de toutes ces choses-là. Les missions du Conseil constitutionnel de singer le modèle français qui n'est pas bon, qui ne marche plus, parce qu'il a été déjà bloqué, verrouillé, confisqué par ailleurs. Il faut voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et les missions du Conseil constitutionnel peuvent très bien être assurées par la Cour suprême. Il y a une Cour suprême au Cameroun, il n'y a pas besoin. Alors, il n'y a pas d'argent, mais la gouvernance locale reconduit juste des postures institutionnelles pour faire semblant, pour donner l'illusion que le pays marche alors que le pays ne marche pas. Bon, moi, je ne parle pas des élections au Cameroun parce que je sais que ça va être quelque chose va devenir voir. Bon, ça, ça ne me regarde pas. Ils font ce qu'ils veulent. C'est un pays autonome, souverain, indépendant. Ils font ce qu'ils veulent. Bien. Amis de Radio Silence, je vous laisse méditer sur toutes ces choses-là. Et je vous dis, moi, ça va très bien. Malgré les déboires, je me porte bien et franchement, je vous aime.
How majestic, how holy, how glorious that he is. your mouth. Worship. Thank you. Father, we thank you. You are holy. You are worthy. You are mighty. You are glorious. You are faithful. From ages to ages, you will never be seen. We bow down before your mouth. I decree that you might be with myself. I hide myself. Thank you, Jesus, for your authority.